Voilà, c'était Kenny Arcana. C'est une Marseillaise qui vient de. Ce disque n'est pas encore sorti. J'ai découvert ça sur le web. Je peux raconter comment je l'ai découvert parce que c'est intéressant. C'est vraiment. C'est par le réseau en fait que je l'ai découvert. C'est un ami m'envoie un mail, c'était vendredi. Il me dit écoute ça, je l'ai écouté. J'ai trouvé que c'était pas mal et à la fois, parce que ça décrit le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est très violent, ça dénonce, ça propose. Il n'y a pas de solution proposée. Mais. Ça fait un constat. Maintenant, c'est à nous d'aller de l'avant et de changer ça, ce qui est dénoncé là. Ça s'est propagé comme ça par le réseau. Mon ami l'a su par quelqu'un qui l'a découvert. Et en fait, ce disque, je crois, a été enregistré il y a quelques jours. Et il est en train de se diffuser sur le web à une vitesse hallucinante avant même qu'il soit sorti. Donc, c'est un phénomène intéressant. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi.
Florence, voix contre oreille. Sur Aligre FM.
Une révolution est en marche, celle des connecteurs. Thierry Crouzet, vous analysez justement, vous nous montrez qui sont ces connecteurs. Ils ne votent pas, ils n'étudient pas, ils ne travaillent pas, mais ils changent le monde. On parle ce matin, et on va en parler jusqu'à 9h30, de ce peuple-là. Alors, ils défendent, et vous défendez, la pensée réseau. C'est-à-dire que vous vous heurtez d'ailleurs à une autre pensée, qui est la pensée dite hiérarchique. Et alors, on le voit bien, ce sont deux attitudes inconciliable. Alors, on vit tellement dans une société hiérarchique qu'on en oublie un petit peu le concept, c'est-à-dire c'est la présence d'un chef et le sentiment que ce chef est absolument nécessaire. Vous, au contraire, vous dites c'est pas la panacée et vous défendez cette idée de réseau. Explication.
Internet, je sais pas, parce que tout le monde le sait, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'Assemblée nationale d'Internet, il n'y a aucune structure hiérarchique. Internet est né par les gens qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'il est né par la base, entre guillemets, et il s'est construit, il s'est par accumulation de petits sites, de petits liens entre des serveurs, etc. Par une lente accumulation, on peut dire que c'est une évolution un peu biologique, il s'est construit comme un être, un organisme vivant. Par opposition, nos sociétés sont gouvernées, centralisées, mais cette centralisation, en fait, pour moi, et je ne suis pas le seul à penser que c'est un cas particulier dans la nature. La nature est massivement décentralisée. Alors les hommes, on a cette tentation de vouloir gouverner, de vouloir dominer. Il y a quelques hommes qui pensent et qui savent ce qu'il faut faire pour les autres. Et ça, c'est une particularité humaine. Ou de certains mammifères, on va dire, chez les singes, on sait qu'il y a des singes dominants, des choses comme ça, mais c'est pas du tout une règle absolue dans la nature, et on se rend compte que la centralisation aujourd'hui n'est pas du tout efficace. Imaginez que votre corps soit si votre corps est centralisé, il suffirait que le centre soit atteint pour qu'on succombe. Or, on est beaucoup plus résistant que ça. On peut résister à beaucoup de choses, c'est parce qu'on n'a pas de centre vraiment.
Donc là. Pour vous, là, est en train vraiment de s'inventer un avenir et vous vous revendiquez le fait d'être qu'en fait, avec Internet, avec ce peuple des connecteurs, vous êtes là comme des pionniers dans cette direction.
Oui, c'est pour ça que je dis ne pas voter, parce que sur Internet, on ne vote pas et pourtant, on est dans une démocratie totale. C'est-à-dire, tout le monde, on a la liberté absolue, on peut entreprendre et c'est une démocratie où chacun de nous se représente. Donc on n'a pas besoin de voter, parce qu'on n'a pas besoin d'élire des gens pour nous représenter, on se représente soi-même. Parce qu'on part du principe qu'on est tous aussi compétents les uns que les autres, aussi capables de faire des choses. Alors chacun fait des choses à fonction de ses goûts, de ses compétences, mais on avance comme ça.
Alors, parce que votre livre est organisé en chapitres, hein, chapitre 1, c'est très très bien fait, ne pas voter, et vous nous expliquez on va prendre l'exemple, le soir du 5 mai 2002, vous n'étiez pas devant votre télévision.
J'ai pas la télé alors.
Et puis en plus vous n'avez pas la télé, donc vous passez vos soirées devant l'ordinateur.
Non, je préfère passer mes soirées à discuter avec des copains.
Ah, bon. En tous les cas, ne pas voter, c'est quand même le pilier central de la démocratie. Thierry Crouzet, au contraire, il faut inciter tout le monde à voter pour avoir des représentants qui vont pouvoir nous représenter.
Mon constat initial, c'est de dire que la société a atteint un seuil de complexité à partir duquel on peut plus la contrôler. Alors, j'aime bien l'exemple du tas de sable. Si, quand on construit une pyramide de sable, en laissant tomber des grains un à un sur la pyramide, les scientifiques se sont rendus compte il y a quelques années qu'on était totalement incapable de prévoir ce qu'il allait se passer. Quand je lâche un grain, est-ce que ça va déclencher une petite avalanche de deux ou trois grains? Est-ce que ça va rien faire? Ou est-ce que ça va déclencher un cataclysme? On sait que, on appelle ça des états critiques, on sait qu'un système qui est dans un état critique est totalement imprévisible. Donc, il est facile de comprendre que si un tas de sable est dans un état critique, la société humaine est vraisemblablement dans un état critique. Et on a beaucoup d'indices qui nous prouvent que notre société est dans un état critique.
Aujourd'hui, vous voulez dire notre société en France là, ou...
En France, la société, tout le monde, l'humanité.
Dans un état critique. Alors, je vais vous lire. Pour nous, le monde, par sa complexité, ne peut être gouverné que par des actes de volonté. Non, ne peut être gouverné par des actes de volonté. Alors, voter pour ne sert à rien. Il ne nous reste que l'option de voter contre. Chirac ou un autre pouvoir, ça ne change rien. Plutôt, ça change tout, mais de façon imprévisible. Un gauchiste, en voulant favoriser les ouvriers, risque d'enrichir les patrons plus encore qu'un libéral extrémiste. Dans un monde global, hautement interconnecté, il faut être irresponsable pour exercer le pouvoir. Un ordinateur imbécile qui prendrait des décisions au hasard ne commettrait pas plus d'erreurs qu'un politique averti.
Bah oui. C'est du moment que la complexité des actions, on ne sait pas ce qu'on fait quand on agit. Comment voulez-vous savoir ce qui va se passer quand, l'histoire du CPE, ce qui vient de se produire. D'un côté, le gouvernement passe une loi en disant « ça va réduire le chômage ». En fait, il passe une loi parce qu'il croit que ça va réduire le chômage, mais il n'a aucune preuve que ça va le réduire. Et ça, jamais ce discours est fait. Il devrait dire « on a l'intuition, on va faire un coup d'essai, on va essayer, voir si ça marche ». Puis si ça ne marche pas, on arrêtera. C'est comme ça qu'ils devraient fonctionner. Leurs adversaires devraient dire, nous, on a l'intuition que ça ne va pas marcher. Alors que ce n'est pas du tout à ça qu'on assiste. Il y en a qui disent, ça va marcher, d'autres, ça ne va pas marcher. Les deux nous mentent, parce que ni les uns ni les autres sont capables de le dire. Et ça, c'est un fait scientifique aujourd'hui. Et le débat de notre société est complètement, sur les choses, est complètement aberrant. Pour moi, ce débat est surréaliste. On parle comme si on savait, alors qu'on ne sait rien.
Alors, c'est un gros livre. Hein. Et là, je vais vous citer une fois de plus. Vous vous retrouvez à Rome, c'est en 2000, par une journée encore estivale qui me fit perdre tout le sens du temps. En fin d'après-midi, assis sur un muret en surplomb de la Villa Médicis, je regardais le soleil se coucher au-dessus du Castel Sant'Angelo et du Vatican. Le ciel était rose, orange, traversé de traînées bleues. Au nord, dans la brume de l'horizon, une nuée grise se matérialisa. Je pensais à un nuage de fumée, puis je vis onduler, avancer sur la ville. Il devint énorme, grouillant de millions d'étourneaux en migration vers l'Afrique. Sous les rafales du Sirocco, leur flotte ondulait à la manière des cerfs-volants chinois qui traînent à leur suite des guirlandes de papier. Par moments, plusieurs flottes convergeaient, puis elles divergeaient, comme si elles avaient rencontré un obstacle invisible. Et voilà, et vous expliquez que, en fait, à partir de là, à partir de cette observation, tout le monde observe parce que ça, c'est c'est absolument merveilleux. Il y a quelque chose, ça va vous faire penser à quelque chose, vous voulez nous l'expliquer?
Ben oui. En fait, ça, c'est des oiseaux, bien sûr, qui arrivent, qui volent en flotte. Et depuis toujours, depuis la nuit des temps, on a toujours cru, et notamment les ornithologues, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait un leader de la flotte, un chef de flotte, comme il y a un chef pour notre gouvernement, et qui disait aux oiseaux, qui leur donnait, toi tu passes devant, tu coupes le vent, une fois que tu es fatigué, tu passes derrière, on se relaie les uns après les autres. Les ornithologues ont cru ça jusqu'en 1986. En 1986, il y a un certain Craig Reynolds, qui n'est pas connu du grand public, mais qui a commencé une révolution en lui tout seul. Il s'est dit, moi je pense que les oiseaux, en fait, il n'y a pas de chef, déjà, et qu'ils respectent juste quelques règles. Et à partir de là, ces règles, en respectant ces règles, ça fait qu'ils vont inventer ces formations de vol merveilleuses. Et il a imaginé trois règles, alors je peux les donner, les trois règles. La première règle, c'est, en tant qu'oiseau, j'essaye de me mettre au centre du groupe dans lequel je suis. Mais pas si on est des millions, on peut être des millions en vol, je prends mes quelques collègues juste autour de moi, je me mets au milieu pour être protégé. Dès qu'il y en a un ou deux qui changent de direction, ben je change un peu de direction comme eux, c'est-à-dire je prends la direction moyenne des gens autour de moi. Et j'essaye de ne pas me mettre trop près d'eux non plus pour ne pas leur rentrer dedans. À partir de ces trois règles, si sur un ordinateur on s'amuse à simuler ces trois règles, qu'est-ce qu'on voit apparaître à l'écran? Un vol d'oiseau exactement comme les vols d'oiseaux dans la nature. Alors on se rend compte que quelque chose qui nous paraît merveilleusement beau, qui est merveilleusement beau, merveilleusement complexe et qui qui manifeste une sorte d'intelligence, parce que les oiseaux, on a l'impression que la flotte d'oiseaux est intelligente. En fait, c'est quelque chose qui est complètement décentralisé et complètement auto-organisé. Ça s'organise tout seul. Il n'y a pas eu besoin de... Personne ne donne les ordres et ça marche merveilleusement bien.
Personne ne donne les ordres, mais si vous parlez comme ça, il y en a toujours un qui, pour une intuition quelconque, va prendre un petit écart là. Automatiquement, les deux autres à côté vont le suivre et ainsi de suite. Il suffit d'un quand même qui va faire l'écart.
Chacun des oiseaux est libre, en fait. Bien sûr, les oiseaux, ils ont un but. En général, ils sont en migration. Donc, leur but, c'est le sud, par exemple. Ils vont vers le sud et puis chacun, il va un peu comme il veut. Sauf que si on laisse un oiseau seul, il va aller vers le sud à sa façon. Si on en met deux, ils vont légèrement se contraindre les uns les autres. Et plus ils vont être nombreux, plus ils vont se contraindre. Et l'ensemble de ces interactions fait le vol.
Alors, les oiseaux volent en flotte. Ils ont un comportement collectif. Et ça, c'est complètement une chose qu'on a perdue aujourd'hui.
Nous autres êtres humains, c'est non, au contraire. Parce qu'en fait, on fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça et on n'en est plus conscient. C'est ça le paradoxe. On sait que nos villes fonctionnent, sont auto-organisées. Si on prend rien que le trafic routier.
Alors là, justement, vous en parlez parce que je vais vous donner une description et on va parler des embouteillages. Voilà. Et vous allez peut-être nous parler de Carlos Gerenson, c'est ça?
Oui.
Alors, encore une figure qui ressemble à Jim Morrison.
Oui, c'est un jeune Mexicain. C'est un jeune Mexicain qui était l'année dernière, je sais encore, en Belgique à faire un post-doctorat. Mm-hmm. Donc, c'est un tout jeune Mexicain qui a eu une intuition assez géniale. Il s'est dit... Il connaissait l'histoire des oiseaux, il savait que les oiseaux sont organisés à partir de quelques règles. Et lui, quand il est dans sa voiture, surtout à Mexico, moi aussi, je suis allé à Mexico, c'est vraiment l'horreur. Il s'est dit, c'est pas possible que je sois coincé devant ces feux rouges, ça marche pas du tout. Et depuis qu'on a les centraux informatiques, on cherche à commander les villes, à faire que les feux se suivent les uns les autres sur les avenues, et on n'arrive jamais, c'est toujours des bouchons. Lui, il s'est dit, est-ce que je pourrais pas faire fonctionner les feux comme les oiseaux? Et il a imaginé une seule règle pour que les feux s'auto-organisent. Donc la règle, elle est toute simple. À chaque croisement, les feux ont des capteurs. Et quand ils voient des voitures arriver, ils laissent passer l'endroit où il y a le plus de voitures. Donc c'est tout. Ils ne s'occupent pas du croisement suivant. Et en fait, les voitures, quand un croisement laisse passer des voitures dans un sens, ces voitures arrivent au croisement suivant. Et en fait, elles lui informent qu'il y a des voitures qui arrivent. Et... Qu'est-ce qu'il a constaté sur les simulations, parce que ça n'a pas été encore mis en œuvre, que la ville, les feux, ils gagnaient 30 à 40% de trafic. L'optimisation, le trafic était merveilleusement réglé. On aurait dit qu'il y avait un virtuose du piano derrière qui contrôlait les flux. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça, c'est une approche complètement à l'inverse de ce qu'on a toujours cru. On a toujours cru qu'il fallait décomposer les problèmes complexes en sous-parties plus simples. Et là, c'est le contraire qu'on fait.
Ce que vous nous dites, Thierry Crouzet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le monde est trop complexe pour laisser justement à un gouvernement central le soin de diriger ce monde-là.
Mais oui, c'est pas possible. On n'est pas capable de diriger le trafic dans une ville. Comment voulez-vous qu'on arrive à diriger le trafic, plus les gens, plus tout? C'est pas possible.
Donc, méthode trop simpliste pour une société qui est devenue extrêmement complexe.
Oui, oui.
Et alors, en France, au contraire, j'ai l'impression que, alors là, vous êtes peut-être extrêmement mal à l'aise. On est une société qui est plutôt extrêmement centralisée, avec beaucoup de règles, beaucoup de lois, les unes se rajoutant aux autres. Et vous qui voyagez beaucoup, ça vous donne quel sentiment alors?
D'un côté, on est en train de découvrir qu'il faut supprimer les lois, qu'il faut décentraliser, et en France, on fait le contraire. Et c'est depuis des années. Et plus on comprend qu'il faut décentraliser, déverrouiller, responsabiliser les gens, plus en France, on va dans l'autre sens. Et donc, c'est affreux, quoi, parce que je pense que les gens, inconsciemment, parce que tout le monde ne fait pas mon analyse, mais sont tiraillés par deux aspirations, et ça crée une déchirure complète, parce que je pense qu'on va dans le mur. Je crois que la France est le pays qui est le plus dans le mur au monde aujourd'hui. Moi, je le dis dans le livre, j'explique que j'ai vécu à Londres, on ne sent pas du tout ça à Londres. Il y a une sorte de dynamisme, c'est vraiment extraordinaire. Il suffit d'aller à Londres un vendredi soir et aller à Paris, n'importe où dans Paris un vendredi soir, et n'importe quel quartier de Londres, on prend vraiment une gifle. Et même aux États-Unis, qui est un pays qu'on peut beaucoup critiquer, il y a un dynamisme qu'on n'a pas ici. Quoi. Donc... Et à la fois, bon, on a des choses qui sont bien en France. On a poussé, je pense, le centralisme. On lui a fait donner tout ce qu'il pouvait donner en France. Et le problème, c'est qu'entre-temps, la société est devenue de plus en plus complexe, de plus en plus complexe. Et maintenant, il faut accepter de changer de modèle. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'il va falloir laisser un chemin. Et on réinventera autre chose, c'est pas grave.